Bonjour Magali. Alors, j'aimerais peut-être d'abord que vous me disiez, avant qu'on parle du système allemand, un peu qui vous êtes, vos études, ce que vous avez fait, où est-ce que vous enseignez, etc.
D'accord. Donc moi, je suis originaire du Tarn, du sud-ouest de la France. J'ai gardé mon accent comme vous pouvez le reconnaître. J'avais appris l'anglais en première langue, l'allemand seulement en seconde langue, mais dès la quatrième, il y avait un échange scolaire organisé entre ma ville d'origine, Groyer, et Prien am Chiemsee, une ville de Bavière. J'ai participé à cet échange. Ça a été le coup de foudre pour l'allemand, pour la famille d'accueil, tant et si bien que quelques années plus tard, je suis même tombée amoureuse du frère de ma Corrèze que j'ai épousé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans un parcours qui m'a amenée en Allemagne. Donc au départ, j'étais partie pour faire des études d'allemand, pour être prof d'allemand en France. Et puis après donc 2 années de prépa et une année à Sarrebruck où j'étais encore dans une université avec une section française où j'ai préparé une licence d'allemand, j'ai pu enchaîner l'année suivante avec une licence de lettres modernes, ce qui m'a permis après donc ces 4 ans d'études de transféré à Munich, où là j'ai eu des équivalences, et 3 ans après j'ai pu passer l'équivalent du CAPES qui s'appelle le Staatsexamen. Donc, ça, ce sont des épreuves écrites qui, quand on les réussit, ouvrent la porte au référendariat. Ça, ce sont 2 années qui font partie donc, du cursus des études pour devenir prof, année obligatoire. Le premier et le dernier semestre sont dans une école où on apprend le métier de prof et où on a certaines classes sur de petites durées. Et à la fin de ces 2 années, les examens ont lieu donc à cette école même. Et là, on est accompagné par un prof dans chaque matière, puisque pour être prof en Allemagne, il faut enseigner obligatoirement 2 matières, qui sont pour moi le français et l'allemand. Et l'année du milieu, on la passe dans une école encore différente, ça peut être deux, puisque c'est le deuxième et troisième semestre, en gros. Et là, j'ai été effectivement dans 2 écoles différentes, où là, on est complètement autonome dans des classes. Mais on a un prof par matière qui, en dehors des cours, peut donner des conseils, accompagne et assiste à certains cours. Voilà en gros mon cursus. Et donc après, par contre, ces 2 années donc, et le deuxième volet d'examen, je n'ai pas eu un poste titulaire tout de suite parce que c'est par note. À l'époque, il fallait avoir, dont les notes vont de 1 à 6, 1,8 pour avoir un poste et j'avais 2,2. Donc, je me suis orientée vers une école privée dans laquelle j'ai enseigné une dizaine d'années et je suis depuis 2004, voilà, parce qu'en Bavière, on est mis sur une liste d'attente et au fur et à mesure que le temps passe, on avance automatiquement sur cette liste d'attente. Et donc en 2004, j'ai obtenu automatiquement un poste titulaire, donc de fonctionnaire de l'État bavarois. Et je suis depuis quelques années dans un lycée près de chez moi. Voilà, dont on va sûrement parler dans les prochaines questions.
Mais alors, si je comprends bien, ça veut dire que déjà, donc la formation, elle se passe en 3 ans, c'est ça, pour devenir prof?
Plus, non, beaucoup plus. En fait, je crois qu'il faut compter 3 ans minimum avant de pouvoir passer le premier Staatsexamen. Et puis, il y a
D'accord.
ces 2 années de pratique qui correspondent à aux IUFM, ou à l'époque, en tout cas, ça s'appelait.
D'accord.
Et après, là, on obtient le diplôme définitif. Donc, je
D'accord.
dirais, c'est une base de 5 ans minimum.
D'accord. Donc 5 ans de pédagogie finalement.
Non, les 3 premières années, ce sont des années qui correspondent à des cours magistraux ou
D'accord.
des cours, en tout cas en université, mais pas
D'accord.
pratique. Alors aussi, il y avait, je crois, un stage obligatoire d'une semaine en école, mais c'était très réduit. C'est après le premier Staatsexamen examen où là, on entre vraiment dans une formation pratique sur les 2 dernières années, donc.
D'accord. Mais donc, par exemple, vous étiez prof de français, ça veut dire que quelqu'un qui veut rentrer dans cette école pour faire prof de français, il a déjà étudié le français avant et ensuite il embarque dans ce cursus?
Oui, pour pouvoir passer ce premier Staatsexamen, donc pour pouvoir effectuer les 2 dernières années qui sont absolument obligatoires pour devenir prof, il faut auparavant avoir fait des études dans les 2 matières qu'on veut
D'accord.
enseigner et obtenir ce qui correspondait, moi, à mon époque, aux UV dans
D'accord.
les universités françaises. Il
D'accord.
faut avoir tel nombre d'UV dans telle matière, plus. Voilà, enfin, il faut avoir déjà accompli pas mal de petits examens pour passer donc le gros examen qui ouvre aux 2 dernières années qui sont beaucoup plus pratiques.
D'accord, les 2 dernières années sont dans une école et c'est là où vous avez un tuteur qui s'occupe de vous, mais finalement vous ne retournez plus à l'école là.
Alors là, on ne retourne plus à l'université, mais ces 2 dernières années sont divisées en 3 parties. Le premier semestre et le dernier, où là on est dans l'école
Oui, d'accord.
de départ, voilà, et au milieu, l'année du milieu, donc le deuxième et le troisième semestre, là on est envoyé dans d'autres écoles et
D'accord.
on enseigne plus autonome, quoi.
Mais toujours dans une école, quoi, finalement. Il n'y a
Oui,
plus du tout de cours.
non,
D'accord, ok.
non.
D'accord, ok.
Enfin, disons que le premier semestre et le dernier semestre, quand on est dans l'école de formation, ça s'appelle l'école de formation, qui est une école tout à fait normale, Féminage, ça s'appelle. Là, on a des cours par certains profs de psychologie et de pédagogie.
D'accord.
Voilà. Mais sinon, après, c'est plutôt des cours ou des réunions, on va dire, où on parle de la façon dont nous, en tant que référendaires, donc stagiaires, on fait nos cours, etc.
D'accord, ok. Donc pour revenir à votre école à vous maintenant, donc l'école en Allemagne, elle est organisée, il y a différents types d'écoles, c'est ça?
Voilà. Alors, l'école primaire dure 1 an de moins qu'en France. Il y a seulement 4 années, donc première à quatrième classe. Après la quatrième classe, les élèves se répartissent en 3 sortes d'écoles, Hauptschule, Realschule et Gymnasium. Donc ça veut dire que les élèves très tôt sont obligés de choisir ou ils n'ont pas vraiment la possibilité de choisir, mais ils sont automatiquement mis sur une école selon leurs capacités. Parce que le choix de l'école est déterminé par la moyenne obtenue à la fin de ces 4 années de primaire. Et si la moyenne n'est pas très bonne, on va dans une Hauptschule qui est destinée après à un enseignement professionnel. Si la moyenne est de, je ne sais pas, je crois que ça équivaudrait à un 12, 13, 14 peut-être, on va à la Realschule. Qu'on peut terminer après 10 années, donc 6 années de plus. Et quand on fait partie des meilleurs, il faut avoir, je crois, dans le système allemand, c'est 2,3, ça équivaut à 14-15. Alors là, on fait partie des privilégiés qui ont la possibilité d'accéder au gymnasium. Et là, c'est la seule école qui permet de passer le bac.
D'accord.
Donc, il y a certaines passerelles à certains moments. Mais les élèves du primaire, des 2 dernières années de primaire, les enfants sont très jeunes en fait, c'est de 8 à, ou de même 7 à 9 ans, les parents se plaignent beaucoup d'une pression énorme parce que
J'imagine.
selon la moyenne obtenue à la fin de cette 4e année de primaire, le choix est assez définitif.
Oui, ça doit être très stressant pour les parents.
C'est très
Et
stressant.
les enfants.
Il y a beaucoup de pression sur cette 4e année de primaire, c'est vrai.
D'accord. Et donc
Ils attendent
vous êtes dans... Pardon.
La tendance en Allemagne va dans le sens d'une Gesamtschule, c'est-à-dire d'une école identique pour tous. C'est un peu le mouvement qui se développe. Voilà.
D'accord, un peu comme le collège unique en France alors finalement.
Ouais, on va vers ce collège unique.
D'accord.
Mais très lentement. Alors, c'est pas du tout concret encore.
D'accord. Mais en gros, ce que vous me dites un petit peu, c'est que ceux qui vont finalement vers la voie professionnelle, c'est pas toujours un choix positif en fait.
Alors, d'un côté, non, parce que c'est vrai que tout le monde aspire à aller au moins à la Realschule et dans le cas idéal au Gymnasium. Par contre, si on compare l'enseignement professionnel en Allemagne et en France, il est bien mieux vu en Allemagne.
D'accord.
Donc, au départ, effectivement, c'est pas forcément ce que souhaitent les parents pour leurs enfants d'entrer, mais si les enfants se retrouvent dans cette voie-là, après, au cours du cursus, l'apprentissage professionnel est bien mieux vu en Allemagne qu'en France et débouche sur des postes qui sont tout à fait honorables, bien rémunérés et qui fonctionnent beaucoup mieux. Je trouve que c'est loin de nos voies professionnelles qui sont en France, en tout cas moi, si je me souviens de mon époque, c'était les voies de garage, voilà, les voies poubelles presque
Oui.
même.
Et c'est toujours vrai aujourd'hui, avec un diplôme professionnel en Allemagne, on trouve toujours des bons boulots.
Oui, je
D'accord,
dirais
d'accord. Alors, l'organisation, donc vous travaillez dans un gymnasium, vous avez donc une organisation spécifique, c'est-à-dire que vous travaillez avec une classe, vous avez votre classe, c'est les élèves qui viennent à vous, les élèves sont toujours ensemble ou comme aux États-Unis, ils changent en fonction des matières, comment ça se passe?
Alors, déjà, il faut différencier au niveau des gymnasiums, il y a pas, il y a plusieurs sections, c'est-à-dire que il y a des lycées qui sont spécialisés dans les matières langues, littéraires, des lycées qui sont plutôt scientifiques. Donc ça, quand un élève va dans un lycée, il sait déjà qu'il devra apprendre telle ou telle matière telle année et qu'il ne pourra pas apprendre telle ou telle matière telle autre année. Moi, le lycée dans lequel j'enseigne est un lycée qu'on appelle humanistisch. Donc, ça veut dire que tous les élèves qui sont dans ce lycée apprennent en première langue le latin, avec 5 ou 6 heures de latin même par semaine. Et
Wow.
c'est seulement, donc, ce qui équivaut au CM2, puisqu'il y a seulement 4 ans de primaire, dès la 5e classe, 5e classe, ils ont 5 à 6 heures de latin par semaine. L'année suivante, qui équivaut à notre sixième, ils apprennent l'anglais. Et encore 2 ans plus tard, 8e classe, qui équivaut donc la sixième, c'est la sixième. En quatrième, les élèves doivent choisir entre le grec ancien et le français. Ça, c'est le cursus obligatoire pour tous les élèves qui choisissent de venir dans l'école dans laquelle j'enseigne. Voilà. Et après, la classe qui est formée dès le premier jour de l'année du CM2, donc la première année de ce gymnasium, elle reste la même jusqu'à la 10e classe, qui équivaut à la seconde. Et c'est seulement les 2 dernières années, 11e, 12e classe, qu'on appelle Oberstufe, qui correspondent à la première et à la terminale. Là, les élèves choisissent de façon individuelle des cours parmi tous les cours proposés par l'école. Donc là, ils se retrouvent dans chaque cours avec des élèves différents, les élèves qui ont pris les mêmes cours qu'eux. Mais de la 5e classe à la 10e classe, donc du CM2 à la seconde, la classe reste avec les mêmes élèves, bon, sauf ceux qui redoublent ou s'il y a des élèves qui arrivent de l'extérieur dans le parcours, bien sûr, là, il peut y avoir des changements minimes, mais sinon, la classe reste avec les mêmes élèves chaque année dans une même classe. Donc, ce sont les profs qui se déplacent, sauf pour, bien sûr, les matières comme le sport, la biologie et après physique et chimie. où là, il y a des salles particulières avec du matériel particulier. Et ce sont les élèves qui se déplacent dans ces classes-là, aussi pour le dessin et pour la musique.
Donc c'est vous qui allez voir la classe finalement
À
à
chaque.
chaque moment. Est-ce que donc cette classe, est-ce que vous avez en Allemagne, est-ce qu'on vous apprend, est-ce qu'on vous avez des réflexions au niveau de la motivation des élèves en ce moment? Parce que bah, si c'est comme nous en France en ce moment, on se pose beaucoup de questions parce que les élèves changent. Et qu'on ne sait pas forcément toujours bah, comment faire pour les motiver. Est-ce que c'est des choses que vous ou que des questions que vous êtes posées?
Oui, alors oui, d'abord je dois dire que depuis très longtemps déjà, moi quand je suis venue en Allemagne en tant que élève moi-même dans le cadre de l'échange scolaire, j'avais déjà remarqué que la façon de faire cours était très différente de nos cours à nous. Dans le sens où les échanges entre les profs et les élèves sont bien plus intenses dans l'oral que ce que c'était à mon époque en France. Tous les cours basent sur un échange entre le prof et les élèves. Il y a très peu d'écrit et c'est pratiquement que de l'oral. Pas seulement dans les cours de langue, mais aussi dans les autres cours, avec donc une grande part accordée à la réflexion. Les élèves sont amenés à réfléchir par eux-mêmes et c'est quelque chose d'extrêmement interactif.
Et
Donc ça, c'est le
c'est
but.
toujours le cas aujourd'hui.
C'est toujours le cas, plus que jamais. Et nous, spécifiquement dans notre école, ce qui s'est rajouté cette année scolaire, c'est justement un projet qu'on a démarré au mois de septembre avec nos plus petits, donc dans les trois classes de CM2, et qui a pour objectif de donner une part qu'on a estimée en gros à 20% de travail autonome de la part des enfants. Donc c'est juste, bon, les 20% c'est plus ou moins, c'est difficile à mesurer, mais l'esprit du projet c'est de dire, voilà, on veut s'éloigner du cours magistral pour essayer de donner beaucoup plus d'autonomie aux élèves en espérant avoir comme résultat positif donc ben, que les élèves apprennent à travailler de façon autonome pour nous d'avoir moins de problèmes de discipline pouvoir se consacrer davantage aux plus faibles. Puisque pendant que la majorité de la classe travaille, ben, on peut être disponible pour un, deux, trois élèves. Et de la même sorte pour les élèves qui ont terminé plus tôt leur travail, c'est plus facile de leur donner à ce moment-là de nouveaux exercices à faire. Voilà, donc c'est un projet qu'on a démarré cette année en septembre pour les matières allemand, maths, histoire géo et latin, dont les
Mais
quatre
alors,
matières principales.
qu'est-ce qu'ils font pendant ces heures où ils sont en autonomie?
Alors, moi, dans mon cours d'allemand, j'enseigne l'allemand dans cette classe-là, je démarre une séquence de cours par un cours magistral où j'expliquerai par exemple des règles d'orthographe, de grammaire. Et ça sera la première heure du cours. Et les 4 ou 5 heures qui suivront, les élèves ont des exercices à faire avec les corrigés. Et il faut qu'ils corrigent eux-mêmes leurs devoirs. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. La lecture d'une œuvre littéraire fonctionne aussi très bien. Sur le principe, un principe similaire, c'est-à-dire que le premier cours, c'est sous forme d'un cours magistral où voilà, on parlera de l'auteur, des grandes lignes du livre, et où ils reçoivent un livret avec tout un ensemble de travaux à réaliser, avec toujours par travail à réaliser un cadre. Plus ou moins déterminés, où ils ont plus ou moins le choix de faire tel travail seul, à deux, en groupe. Et puis donc après avec quelque chose à réaliser par écrit, par oral, on essaie de varier les formes de travail autant que possible. Ça peut être des interviews à réaliser, des affiches à faire, voilà, c'est un peu ce qu'on a essayé de mettre en place cette année.
Et donc vous, vous passez entre les groupes pour voir s'ils travaillent bien, quoi, finalement.
Voilà, et on a une salle de classe qui a été mise à notre disposition, à la disposition des trois classes, des trois CM2 qui sont dans un couloir. Au bout du couloir, on a cette quatrième salle de classe qui est inoccupée et à laquelle on a accès en permanence où on peut envoyer les élèves qui désirent travailler par exemple en groupe ou à deux. On peut dire, bon, ben voilà, ceux qui veulent travailler seuls restent dans la classe où on a cours maintenant et les autres peuvent partir. Donc, on a parfois dans cette quatrième salle de classe des élèves qui vont faire pour moi de l'allemand, pour le collègue des maths et pour la troisième du latin. Et
D'accord.
ça fonctionne très bien, ça fonctionne très bien. Et nous, on circule donc entre la classe dans laquelle on est de façon obligatoire et la quatrième classe où on navigue, quoi.
D'accord. OK. Et ils se mettent au boulot.
Oui, ils se mettent au boulot.
D'accord.
Voilà. C'est vrai que c'est positif. Le résultat de ce projet a été très positif.
D'accord. Mais par exemple, quand vous dites ils ont un travail oral à faire, une interview, une affiche, à un moment ou à un autre, il n'y a pas de mise en commun qui est faite avec les autres?
Si, si, à la fin de la séquence, on a la mise en commun.
D'accord.
Donc, voilà, ça c'est un peu aussi ce qui est mis en point d'interrogation par les collègues qui sont plutôt contre ce projet, c'est la question de savoir est-ce que les connaissances sont acquises et
Ah oui.
comment voilà, avoir l'assurance que les connaissances sont acquises. Moi, il me semble que quand on laisse travailler les élèves, on a la possibilité aussi, la possibilité au niveau du temps, nous en tant que prof, de passer entre les rangs et de vérifier qu'ils ont bien, par exemple, corrigé avec un crayon d'une autre couleur leur propre travail. Donc ça, c'est une façon de contrôler quand même d'assez près le travail de chacun.
D'accord, mais ça requiert quand même après beaucoup de correction de votre part, ramasser, vérifier à la maison, non?
Pas vraiment, puisque moi, je passe juste entre les rangs et à partir du moment où je vois que les élèves ont écrit d'une autre couleur dans leur travail certaines chose, je pars du principe qu'ils ont corrigé, qu'ils ont compris. S'ils ne sont pas venus vers moi pour me demander, pour me poser des questions, ça veut dire qu'ils ont compris en lisant après les corrections qui sont sur mon bureau. Ils ont fait vraiment le travail, correction inclus par eux-mêmes.
D'accord. Et il n'y en a pas qui, par facilité, vont se dire, je demande pas parce que...
Je pense que non, ou ce sont de bons éléments et ils ont de toute façon compris quoi.
D'accord. Ou de toute façon, s'ils étaient en classe, ils poseraient pas plus de questions,
Oui,
de toute
voilà.
façon. Donc,
Ouais.
ça changerait peut-être pas forcément. Mais alors, ils ont la possibilité donc de mener leur feuille de route à leur guise, quoi. Ils
Voilà.
commencent. D'accord.
Alors par contre, la première heure de cours magistral, ils reçoivent une feuille de route justement où ils doivent écrire heure par heure, jour par jour. Ce qu'ils ont fait pendant le cours pour que nous, en tant que prof, on ait effectivement un œil sur la progression de leur travail.
D'accord. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment de développer cette autonomie pour que
Voilà.
plus tard. Ok. Et donc là, les résultats, vous, ça fait un an là que vous avez mis ça en place et
Ouais.
ça vous semble fonctionner?
Oui, ça nous
Ouais.
semble fonctionner. Donc, on veut poursuivre ça en sixième l'année prochaine et les
D'accord.
profs qui auront les CM2 en septembre vont continuer sur ce modèle-là. Alors,
D'accord.
bon, pour nous, ça a été beaucoup de travail au niveau de la conception des cours, puisqu'il fallait donner d'autres c'est notre matériel par rapport aux cours magistraux. C'est-à-dire qu'il fallait prévoir avant la séquence de cours questions et réponses, en gros, pour toute une séquence de cours de 2, 3 semaines. Ce qui demandait de notre part un gros travail en amont, mais après, effectivement, beaucoup plus de flexibilité sur ces 3 semaines-là. Et ce qui a été très positif, ça a été l'échange qui a eu lieu entre les 3 collègues de ce niveau-là, de ce projet-là. Parce que dans notre école, et je pense que malheureusement c'est généralisé, il y a peu d'échanges entre les profs, je trouve. Alors que là, on était obligés de communiquer, on a échangé beaucoup de cours. Et ça, je trouvais que c'était très positif. On a toutes les 3 trouvé que c'était très positif.
D'accord. Mais quand vous dites vous êtes obligé de prévoir, parce que est-ce que en 1 heure de cours magistral, on arrive à faire passer toutes les connaissances qu'on veut faire passer en 3 semaines de cours magistral d'habitude?
Alors non, en fait, c'est plutôt le non, 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 non. En fait, je me suis mal exprimée. C'est l'impulsion. On donne l'impulsion. Par exemple, si je parle d'une séquence de cours sur une œuvre littéraire, on va juste commencer avec quelques informations sur l'auteur et on va commencer à lire le premier chapitre. Et après, les
D'accord.
étudiants sont vraiment livrés à eux-mêmes. Sur
D'accord.
des questions de grammaire, d'orthographe, là. On expliquera 2, 3 règles et les élèves seront maximum 3, 4 heures livrés à eux-mêmes.
D'accord.
Maximum.
Ok, donc c'est
Peut-être
pas mal.
2, 3 heures, ça suffit. Voilà,
D'accord.
ouais.
Ok, assez pour juste faire comprendre la règle finalement tout seul,
Exactement, avant de passer aux autres
avant de
règles, ouais.
passer à autre chose. D'accord. Ok. Et donc globalement, pour les autres classes qui n'ont pas eu cette chance de travailler là-dessus, est-ce que vous avez des choses que vous mettez en place particulièrement, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on met en place en Allemagne, enfin, vous disiez cette relation avec le prof, elle est plus positive peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça sur lesquelles on travaille en Allemagne, peut-être plus qu'en France?
J'ai l'impression que le contact humain est aussi plus privilégié en Allemagne.
D'accord.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a aussi des activités extrascolaires qui sont obligatoires, comme par exemple une sortie en début et en fin d'année avec le prof principal et un autre prof, qui ont pour but de faire connaissance et d'améliorer ou de mettre en place justement une bonne relation entre prof et élève. Ça, je trouve que c'est très chouette. Et puis, il y a beaucoup de fêtes, un bazar de Noël, voilà, des choses qui sont en dehors des cours et qui contribuent à tisser des liens qui sont très positifs après pour les élèves et pour les profs. La relation prof-élève s'en trouve améliorée, je trouve.
D'accord. Et donc, parce que là, ce que j'avais entendu dire aussi, c'était peut-être plus une relation bienveillante où on est plus, on est moins en train de juger, et on est plus en train d'aider.
Oui. Oui, c'est vrai, les Allemands sont beaucoup moins dans un corset de règles et de prescriptions avec punitions, tout ce qui est assez français, sévère, rigide. Alors là, par contre, non, les Allemands sont beaucoup plus dans une perspective de dialogue, essayer de comprendre l'élève, de parler avec lui à la fin du cours, de mettre en place des questionnaires. S'il y a vraiment des problèmes de discipline, on va essayer de faire réfléchir l'élève à son comportement avec s'il y a une exclusion du cours, ça ne sera pas une exclusion avec une punition, mais avec une réflexion des plusieurs questions, dans quelle mesure tu as contribué à ce que l'ambiance de la classe soit détériorer, quels sont les sentiments que tu as provoqués chez le prof. Voilà, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très positif aussi.
Ça fonctionne?
Oui.
Oui.
Ouais.
Non,
Je trouve.
c'est
Ouais.
sûr. Juste peut-être pour terminer au niveau vous de la formation, donc vous m'avez dit au début que ben, il y a eu de la formation pas mal en début de carrière. Est-ce que vous en recevez encore aujourd'hui de la formation professionnelle?
Il y a beaucoup de propositions de formation. Les profs ne sont pas obligés d'en profiter, mais on est invité à, je crois, alors on a inspecté en Allemagne tous les 4 ans. Tous les 4 ans, on reçoit une note qui est déterminée, entre autres, par 3 visites du proviseur à des cours qu'on donne à nos élèves. Et il faut qu'on ait pendant ces 4 ans participé à 12 formations différentes. Ces formations sont proposées soit par l'école, ils font venir des conférenciers sur des sujets tout à fait différents, l'autisme, ça peut être technique, c'est très
D'accord.
lié. Et sinon, chaque prof peut, après, avoir accès à des formations externes sur Munich, sur d'autres villes de Bavière, sur 1 ou 2 heures, sur une journée, sur plusieurs jours. Je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités en Bavière.
D'accord. Et c'est des choses que vous faites donc vous aussi régulièrement, quoi.
Oui, je faisais ça de façon très intense avant que mes enfants soient là.
Oui,
Voilà, j'ai 3 enfants
forcément.
qui prennent pas mal
Oui,
de temps, donc là
c'est
j'ai fait moins.
normal.
Voilà, je sens qu'à nouveau j'ai envie de repartir sur des formations, donc je pense que je vais me remettre un peu. Voilà, là j'ai seulement assisté, je pense, à ces 12 formations obligatoires et en
D'accord.
focus sur celles proposées par l'école, puisque c'est le plus facile, mais c'est intéressant, ouais.
C'est sûr. Et juste donc pour conclure, est-ce que vous pensez que ben, il y a des défis, des challenges qui vont se poser très bientôt avec vos élèves en Allemagne, avec les réformes qu'on va vous imposer, ou est-ce que vous pensez que tout va continuer comme ça et que tout va bien?
Je pense que le gros changement qui est en train de se mettre en place en Allemagne, c'est sortir du fédéralisme pour évoluer vers une centralisation et une homogénéisation du système scolaire. Puisque pour le moment, chaque État a un ministère propre. Et là, les États, bon, le pays en général se rend compte que ça devient difficile de maintenir comme ça 14 États avec 14 politiques dans l'éducation différentes. Donc on va vers un bac central, mais on est encore loin de le réaliser. Et
D'accord.
la tendance va vers là, et donc je pense que ce sont les changements à venir. À plus court terme, on était passé en 2011 à un bac à 18 ans. Jusque-là, c'était un bac à 19 ans. Et là, à partir de l'année, je crois, scolaire de 2019-2020, on va rebasculer sur un bac à 19 ans.
D'accord.
Voilà, ça, ce sont les changements
Qui sont à venir.
qui sont à venir, qui sont définitifs. Voilà.
Une question que je ne vous ai pas posée aussi, et peut-être qui va être un challenge pour plus tard, c'est le numérique. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec le numérique dans vos classes?
De plus en
Oui.
plus, donc la dernière acquisition qui a été très positive pour tout le monde, je ne sais même pas comment ça s'appelle en français, document, une caméra. Ces
D'accord.
caméras qui permettent de projeter au mur n'importe quel document qu'on pose sur la table, livres,
D'accord.
photos, objets.
D'accord.
Voilà, donc toutes les classes ont été munies de cette caméra. Toutes les classes sont munies d'un projecteur relié à un ordinateur,
Oui, un vidéoprojecteur, oui.
un vidéoprojecteur, voilà. Donc ça, Ouais, c'est bien. Je trouve qu'on a été bien équipés là ces dernières années.
D'accord. Très bien.
Et on a reçu des tablettes, une valise d'une 15 à 20 tablettes, je crois, qui vont être aussi mises à la disposition des professeurs incessamment sous peu. Je pense à la prochaine scolaire là.
D'accord, mais pas une par élève, quoi, juste une pour
Non,
l'école
là c'est
et...
vraiment le début. Ouais, c'est le
D'accord.
début des tablettes juste avec un set pour à peine une classe, quoi.
D'accord, donc à voir comment vous allez vous en servir.
Voilà.
Super, bah, écoutez, merci, merci beaucoup. C'est très très intéressant et intéressant de voir que ben il y a des choses qui se font et puis qui peuvent être très inspirantes aussi pour nous. Donc
Bien sûr.
c'est vraiment chouette. Merci.